Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible. Bonsoir, Jennifer.
Quelle chanson.
Wow, c'est comme...
relaxant.
Ta chanson thématique, comme quand tu rentres dans une pièce, c'est ça qui joue.
Relaxant. Je me vois sur mon divan après une journée. Je peux surplayer ou j'ouvre la télé. J'entends cette douce musique. Forensic Files.
C'est la bonne heure pour Jennifer.
Je retourne aux sources. Forensic Files, c'est une des émissions qui m'a fait aimer vraiment le true crime. Regarder ces petits épisodes-là de 20-25 minutes à la télé sur les enquêtes de meurtre tout le temps. J'ai utilisé un épisode de ça pour prendre des informations. Puis ça m'a vraiment fait du bien.
Ah, c'est le fun de revisiter des vieux favoris.
Les vieux classiques. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils en font plus, les nouveaux Forensic Files. Puis j'ai écouté toutes les saisons, tu sais. Fait que, ouais.
Ouais. So, faut adresser qu'on a manqué un épisode la semaine passée. On était toutes extrêmement malades.
Oh my God. Puis, je suis encore malade. Vous pouvez sûrement l'entendre dans ma voix. Par contre, il était hors de question que je manque l'Halloween. T'sais, cet épisode-là va sortir juste à temps pour l'Halloween. C'est une histoire qui se déroule à l'Halloween. Il n'était pas question que je manquais l'Halloween. Okay? Donc, cette semaine, belle voix, pas belle voix, je fais un épisode.
Happy Halloween!
Oui! Est-ce que tu es prêt?
Comme toujours, pantoute.
Prends une gorgée.
OK.
Je te le dirai pas deux fois. L'histoire d'aujourd'hui se déroule le soir de l'Halloween dans la belle vallée de Napa, en Californie, juste au nord de San Francisco.
Ouh là là, très chic.
Chic.
Luxueux, c'est vraiment beau.
I mean, pas San Francisco. Ceux qui me connaissent le savent, là, je déteste San Francisco. Toi aussi.
Ah! San Francisco a changé. Quand j'étais jeune, genre 12-13 ans, c'était beau.
C'est pas laid, mais je veux dire...
C'était vraiment quelque chose à vivre. Mais maintenant, il y a une application pour la ville de San Francisco pour voir toutes les places qu'on peut trouver l'excrément humain.
C'est tellement un problème dans cette ville-là qu'il fallait qu'ils créent une application parce qu'il y a vraiment des sans-abri partout. Puis si tu vois une crotte...
Je te jure, il y a beaucoup de points rouges sur la carte. Comme c'est picoté de marde. C'est vraiment
Francisco,
quelque chose.
San Francisco, ville de marde. Non, je suis désolée s'il y en a qui aiment San Francisco. C'est pas mon cas. Mais bon, l'histoire d'aujourd'hui se déroule à Napa, dans la vallée de Napa, tout près de San Francisco. Napa est une ville sécuritaire, normalement, mais là, on connaît le contexte de notre podcast. On sait bien que ça va changer pour cette année-là, du moins. En effet, avant cet événement que je vais vous raconter, il n'y avait pas eu de meurtre pendant 2 années consécutives à Napa. La vallée de Napa est surtout reconnue pour ses vins prestigieux. Près de 5 millions de touristes explorent cette vallée chaque année afin de faire la visite des différents vignobles. Ce qui place cette destination au deuxième rang des endroits les plus visités en Californie. Pour te donner là, un titre comparatif, Colin, Disneyland est au premier rang.
OK. I mean, c'est ça que je pensais. C'est comme, wow.
Mais quand même, j'aurais pas pensé que la vallée de Napa serait directement en deuxième. Je sais pas, j'aurais pensé Hollywood ou...
Yeah, Hollywood, Universal Studios.
Ouais, c'est ça. En 2004, Adrienne Insonia, Leslie Ann Mazzara et Lauren habitent ensemble dans une maison.
Mm-hmm.
Selon les voisins, les jeunes femmes étaient très tranquilles, respectueuses et sympathiques. Bref, des voisines parfaites. Adrienne avait 26 ans, puis elle était née le 30 décembre 1977. Elle était ingénieure dans le département sanitaire de la ville de Napa. Elle était donc responsable de diriger les projets de construction comme les égouts, par exemple.
Mm-hmm.
Sa bonne amie Lily travaillait au même endroit qu'elle. Lorsqu'Adrienne était jeune, elle a été victime d'un grave accident de voiture qui lui a pris des mois et des mois de, réhabilitation. Je l'ai bien dit.
Est-ce qu'on sait quelle blessure elle a survécu dans cet accident?
Ben, je sais qu'elle a eu comme un traumatisme crânien, là.
Oh, OK. Ouais. Oh, wow.
Donc, on peut dire que c'était une vraie combattante. Elle pratiquait le volleyball et le baseball. Donc ça, c'était Adrienne. Maintenant, je vais parler de Leslie, qui est une autre coloc. Okay? Leslie habitait avec Lauren et Adrienne. Donc Leslie, elle, est née le 1er août 1978 à Orlando, en Floride. Leslie, c'est la seule des trois qui venait pas de Napa. En fait, Adrienne venait d'une petite ville tout près de Napa. Okay?
Okay.
Leslie, elle est née à Orlando, qui est comme vraiment à l'opposé, là, tout à fait à l'est des États-Unis, au sud-est, puis Napa, c'est comme au nord-ouest.
Mm-hmm.
Elle avait un bac en philosophie, puis elle faisait du karaté et de la crosse. Ça me fait rire de la crosse.
Oh my God! J'ai vraiment mal compris.
Qu'est-ce que t'as compris?
La crosse.
C'est ça, de la crosse?
Non, 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 non. La, espace, crosse.
Ouais, c'est ça. Elle fait la crosse.
No, not lacrosse, the sport.
Yeah. Oh, parce que c'est lacrosse? Je faisais de la crosse?
I mean, en anglais, on dit lacrosse pour le sport.
Ouais.
Mais je sais qu'en français, la crosse...
Là, je vois le mouvement que tu fais avec toi.
C'est un jouissement. So, est-ce que c'est le sport ou le mouvement que je faisais avec ma...
Colin, le sport.
Thank you!
Dans le cadre de ses études, Leslie est déménagée en Caroline du Sud pour étudier la philosophie et pour faire des concours de beauté. Elle s'est aussi fait un petit copain là-bas, mais la relation n'a pas duré très longtemps. Par contre, le jeune homme était obsédé par elle, puis il la laissait pas tranquille. Puis ce qui était encore plus bizarre, OK, c'est que le père de l'ex de Leslie, il arrêtait pas de lui faire des avances.
Ew.
C'est weird, hein?
Ultra creep.
Fait que là, son ex la lâche pas, puis le père de son ex la lâche pas non plus. Fait qu'elle avait donc deux creeps qu'elle lâchait pas. OK? Fait que ce serait entre autres pour ça que Leslie serait déménagée à Napa. Puis de toute manière, sa mère habitait déjà là, puis sa mère, c'est elle qui avait dit à Leslie, déménage donc à Napa près de chez moi là, pour que je te vois plus souvent, puis en plus, tu vas être loin des deux gars bizarres qui te lâchent pas.
Mm-hmm.
Une fois à Napa, elle travaillait dans une boutique de vin. Elle vendait les produits, puis elle faisait des visites guidées du vignoble.
Nice.
Pour ce qui est de Lauren, la troisième coloc, je vais pas donner plus de détails, puisqu'il s'agit de la survivante, la seule survivante des trois.
Wow.
Elle est toujours traumatisée par cet événement, puis elle se sent coupable d'être en vie. Alors, par respect pour elle, elle veut passer à autre chose. J'en parle pas plus. Je continue maintenant mon histoire. Les deux creeps de la Caroline du Sud continuaient d'harceler Leslie en la téléphonant régulièrement, et ce, même si Leslie habitait maintenant à des milliers de kilomètres plus loin.
Mm-hmm.
Comme s'il n'y avait pas assez de drame au sein de ce groupe d'amis, Lily, c'est celle qui travaille avec Adrienne, Lily, elle habite pas avec les trois filles, mais c'est une bonne amie d'Adrienne. Puis comme les trois filles habitent ensemble, c'est comme si chaque cercle d'amis, c'était devenu un gros cercle d'amis, finalement. Tu sais, les amis d'Adrienne, les amis de Leslie, ben c'est les amis de tout le monde, OK?
OK.
Donc, Lily, elle aussi, elle avait des problèmes de garçon. Elle a décidé de mettre fin à sa relation avec son fiancé quelques semaines avant leur mariage.
No way.
Leur mariage était prévu le 1er novembre.
C'est tellement salace.
Salace. Adrienne, qui voulait aider son amie dans ce temps difficile, elle propose à Lily d'aller faire un voyage en Australie. Maintenant, le voyage en Australie n'est pas fait, là. Je te parle juste, eux, ils planifiaient ça.
OK.
Maintenant, c'est le soir de l'Halloween. Afin de se changer les idées, ben, Lily, elle va dans un party chez ses amis. Ben, chez des amis, en fait. Je te rappelle que le mariage était prévu pour le 1er novembre, donc le lendemain de l'Halloween. C'est pour ça que je dis pour se changer les idées.
Mm-hmm.
Les trois filles, elles, les trois colocs, décident de rester à la maison puis de donner des bonbons aux enfants. Selon des voisins, les filles avaient préparé des beaux gros sacs de bonbons, puis les enfants étaient vraiment contents. Ils donnaient pas juste des petits bonbons cheapettes, là. Ils faisaient des beaux petits sacs, là. Tu sais, les petits sacs en plastique avec des maisons hantées.
Avec
là.
Une belle petite collection de
bonbons. Si ça peut mettre les préférés. Ça, c'est quoi le snack idéal pour toi, là? Alors, mettons que j'ai un sac, là. Un petit sac d'Halloween comme ça, là. OK, là. Moi, il faut qu'il y ait une petite aéro dedans, une petite crunchy, des bonbons genre Ménard, des petites framboises, des petits Swedish fish, puis des petits vers de terre. Hey, là, ça en fait beaucoup.
Yo, c'est extensif ton petit sac.
Mais c'est mon sac parfait.
Yo, c'est un sac de poubelle, ça.
Comment ça?
Mais I mean, un sac noir de vidange.
Mais non, je sais pas.
Il y a beaucoup de bonbons dans ton sac.
Mais non, mais
sac.
T'as jamais fait des petits sacs comme ça pour l'Halloween? Tu dis.
Ah, yeah, mais tu mets comme.
Pas une grosse aéro, là.
4-5 petits bonbons là-dedans.
Non, mais des petits verres, c'est pas gros.
Oui.
C'est quoi, t'as ton snack idéal? T'es bien cheap, ces bonbons.
I mean.
Mais dis-moi ton petit sac de bonbons idéal. Que mettons, tu passes l'Halloween, là, en ce moment, qu'est-ce que tu veux dans ton sac?
Reese Cup individuel. Les petits bonbons Coca-Cola.
Ooh.
Les mini-bouteilles. Là.
OK.
The Fuzzy Peaches.
J'ai oublié celle-là.
Peut-être un Gum Bazooka Joe.
Y a pas de chocolat dans ton sac?
Yeah, look, Reese Cup.
Ah. Bazooka Joe avec la petite blague à l'intérieur. Là.
Hell yeah.
Alors maintenant, la soirée d'Halloween est terminée, il n'y a plus de bonbons, les enfants, ça fait longtemps qu'ils sont partis se coucher puis qu'ils sont bien coma, couchés dans leurs bonbons. Vers 11h, Lauren est la dernière à aller faire dodo. OK? Elle se rend donc dans sa chambre au rez-de-chaussée avec son chien Chloé. Vers 2h du matin, elle est réveillée par la lumière qui détecte les mouvements. La lumière était dans la cour arrière.
Okay.
Et comme les deux autres filles avaient leur chambre à l'étage, elles ne s'en rendaient pas compte. Tu sais, le light sensor?
Yep.
Que quand il y a du mouvement, la lumière allume, ça fait genre tic, puis la lumière allume.
Mm-hmm.
Bon, ben, Lauren, sa chambre, la fenêtre de sa chambre était près de cette lumière-là. Fait que là, elle entendait tic, puis ben, la grosse lumière dans son visage, elle se réveille. Lauren, elle ouvre ses yeux, puis elle se dit, bon, mais ça doit être justement un chat ou quelque chose, ça arrive des fois là.
Est-ce que sa chien est dans sa chambre?
Ouais.
En ce moment? OK, good.
Ouais. Elle la laisse rendormir jusqu'à ce qu'elle entende les grognements de son chien, justement. Encore, elle se réveille, puis elle se dit, ben, ça doit être justement le chien qui grogne après les chats. Hein. Les autres filles ont des chats dans cette maison-là, puis ça arrive souvent que le chien grogne après. Fait que là, elle essaie de se rendormir encore. Elle dépose sa tête sur son oreiller. Mais là, elle commence à entendre des mouvements dans la maison. Elle se dit, oh, ça doit être encore Leslie qui a invité un homme. Là. Leslie, ça pouvait lui arriver d'inviter des copains à la maison. OK? Mais là, Lauren change d'idée parce que elle commence à entendre des cris de terreur.
Okay? Oh my God.
Des gros cris.
D'une personne?
Ouais. D'une des filles.
Oh no!
Ouais. C'était clair que c'était pas des cris de. You know.
Pas comme un chat dans une ruelle.
Ou d'une fille qui a invité un chum dans sa chambre.
Oh! Salade.
Fait que là, elle endormie, puis elle a peur. T'sais, elle ouvre la porte de sa chambre parce qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle ouvre sa porte.
Non, absolument.
Puis c'est là qu'elle voit un homme courir en descendant les escaliers. Prise de panique, Lauren se dit qu'il vaut mieux pour elle d'essayer de se sauver. Là, tu sais, tout se passe en quelques secondes, là. Sans faire de bruit, elle passe donc par la porte de la cuisine puis se rend dans la cour arrière sans que l'homme la voie. C'est peut-être pas la best décision pour elle parce que la cour arrière est munie, ben, est comme clôturée là, avec des clôtures de 6 pieds.
Mm-hmm. Non, yeah.
Mais bon, tu sais, sur le coup.
En
là,
fait, elle est enfermée là-dedans.
Dans sa cour arrière, ouais, c'est ça. Oui. Mais tu sais, elle. Ça a été sa première réaction.
Mm-hmm.
Puis là, ben, elle reste là, puis elle pouvait entendre les bruits. Puis les bruits qu'elle entendait, ça ressemblait à quelqu'un qui gossait après les stars d'une fenêtre. Fait que là, elle est terrifiée, puis elle attend de plus rien entendre. Après quelques minutes, elle retourne à l'intérieur de la maison, puis elle monte tout de suite à l'étage dans la chambre de ses colocs pour voir si elles étaient correctes, si ses colocs étaient corrects.
Oh my
God. Rendu en haut, Leslie et Adrian ont été poignardées à plusieurs reprises.
Ouh! Les deux?
Ouais.
Wow!
Le plancher est couvert de sang. Leslie était couchée sur le ventre, dans une pile de linge, avec des traces de poignard partout sur le haut du corps.
Tout Jésus!
Adrienne était recroquevillée dans son coin. Elle était encore en vie lorsque Lauren est montée, mais elle était très faible et ne pouvait plus parler. Tout de suite, après avoir vu cette scène atroce, Lauren appelle le 911.
Tout ça, ça se passe dans quelques minutes.
Oui. Adrienne est décédée avant que les policiers arrivent.
Oh,
ouais. Lauren fut interviewée sur le champ. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui.
Le gars s'est sauvé tout de suite? Oui. OK.
C'est sûr qu'à ce moment-là, par contre, Lauren, elle sait pas ce qui se passe. Là. Elle sait pas si le gars, il est pas loin. Tu sais, il s'est sauvé, mais elle, sur le moment, elle ne sait pas. Là.
Yeah, c'est ça.
Elle se doute bien qu'il n'est plus dans la maison puisqu'elle n'entend plus de bruit.
Non, c'est ça. C'est pas comme s'il avait fait... OK, là, la tuerie, c'est fini. Okay, moi, je pars. Bonne soirée. Ciao.
Ouais, c'est ça. Bonne nuit.
Non, c'est ça.
Là, les policiers interviewent Lauren tout de suite. Puis par la suite, elle devra aller habiter chez un membre de sa famille pendant le déroulement de l'enquête. Lors d'une entrevue, un des policiers responsables de l'enquête, son nom c'est Todd Shulman, dit que c'était...
Todd Shulman.
Ouais.
All right.
Il dit que c'était une des scènes de crime les plus sanglantes qu'il avait vues dans sa carrière.
Ça arrive souvent dans les histoires que tu me racontes que le policier dit que c'est la scène la plus sanglante qu'il a jamais vue dans son carrière de 40 ans.
Ouais, mais j'imagine que, tu sais, t'en vois pas souvent des meurtres dans ta... À moins
non,
que t'habites,
c'est ça.
À moins que t'habites genre à Indianapolis, là, ben à Chicago. Hein. Les enquêteurs ont pris plusieurs échantillons de sang dans l'espoir d'y trouver l'ADN du tueur.
Mm-hmm.
Aussi, ils ont trouvé 3 mégots de cigarettes, 2 devant la maison et 1 derrière. Les filles ne fumaient pas.
Man. C'est donc bien... le mot que je cherche est... Reckless.
Oh, reckless dans le sens que il a vraiment pas fait attention là.
Yeah, de laisser des mégots.
On est quand même en 2004.
Mais c'est 2004, pas 1994 là.
Ouais.
En 2004, tout le monde a vu des films d'Hollywood avec les tests de ADN puis tout.
Mais comme tu dis, puis tout, il est reckless. Bon.
Yeah.
Les scientifiques au laboratoire étaient très surpris par le grand nombre d'échantillons qu'ils ont reçus pour cette enquête. Normalement, ils reçoivent en moyenne entre 2 et 4 échantillons pour un crime de la sorte. Mais pour ce crime-là, ils ont reçu 71 échantillons à analyser.
Super reckless.
Ouais. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que le tueur serait allé dans la chambre de Leslie en premier. Adrian se serait fait réveiller par les bruits et l'homme l'aurait ensuite tué. Il pense ça parce qu'Adrienne avait plein de blessures de défense, prouvant ainsi qu'elle était réveillée lors de l'attaque.
My God. Okay.
Leslie, de son côté, se serait clairement fait tuer pendant son sommeil. Les enquêteurs pensent aussi que le tueur connaissait les victimes, ainsi que la maison. Il est allé en haut directement. Il savait donc que les chambres s'y trouvaient. Une récompense de 100 000 $ est offerte à toute personne qui donnera des informations menant à un arrêt. Cette récompense est offerte par un groupe de plusieurs entreprises de Napa.
Wow.
Évidemment, l'enquête a... Ça n'a pas été long avant que l'enquête mène les policiers directement au père de l'ex de Leslie.
Mm-hmm. Un des deux creeps.
Un des deux creeps, oui, c'est ça. Puisque aussi...
plus creepy des deux.
Le papa, ouais.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ah, puis selon les relevés téléphoniques, le père de l'ex de Leslie, le papa creep, l'aurait appelé à plusieurs reprises, puis il l'aurait aussi appelé deux fois le soir du 31 octobre. Donc le soir du meurtre.
Oui, Big Daddy Creep, you fucked up.
Big Daddy Creep. Par contre, les deux étaient en Caroline du Sud, soit environ 3390 km plus loin le soir du meurtre.
Puis il y avait de la preuve de ça.
Ouais.
Mm.
Les policiers ont fait un travail acharné dans l'espoir de trouver le coupable. Ils ont conduit plus de 1300 entrevues et ont pu avoir plus de 200 échantillons d'ADN de différentes personnes. Mm-hmm. Surtout des jeunes hommes qui connaissaient les victimes, qui voulaient aider les enquêteurs. Pendant que les policiers continuaient leur enquête, le laboratoire continuait aussi ses analyses. En effet, du sang n'appartenant pas aux trois filles a été retrouvé.
Mmh.
Ce sang appartient aussi aux cellules de peau retrouvées sur un paquet de zip tie proche de la fenêtre.
Mmh.
En entrant dans la maison, parce que le tueur est entré par la fenêtre.
Oui, okay? C'est ça.
Il a échappé les attaches. Il y avait un paquet d'attaches. Fait que ça prouve vraiment qu'il est allé là pour, en tout cas...
Ouais,
attacher les filles.
L'intention de...
De faire quelque chose.
Ouais, de faire quelque chose de mal. Soit voler, tuer, violer, whatever. Il voulait faire des crimes.
Ben, c'est ça. Fait que là, le sang qui était trouvé qui appartient pas aux trois filles provient de la même personne que la personne qui a échappé les zip ties près de la fenêtre.
OK.
Ensuite, l'ADN du tueur a été comparé à l'ADN de 4 millions de criminels par l'intermédiaire d'un système informatique.
Mm-hmm.
Par contre, les résultats se sont avérés négatifs.
Mmh.
Aucun match. Les policiers pensent donc que le coupable n'a pas de dossier criminel, ou que c'est sa première fois, ou encore qu'il ne s'est jamais fait prendre.
Mmh. Mmh.
En comparant le sang du tueur aux échantillons récupérés lors des entrevues, hein, je t'avais dit que dans les 1300 entrevues, ils ont récupéré plus de 200 échantillons. Fait que là, ils ont comparé l'ADN du tueur. Mais il n'y a rien qui fait avancer l'enquête. Il n'y a aucun de ces échantillons-là qui match le tueur.
Mais tu avais dit que, justement, plusieurs échantillons qu'il y avait, c'était du monde qui était coopératif avec l'investigation puis qui voulait aider l'investigation. So, c'est sûr que le tueur ne va pas librement donner... Un échantillon de son ADN.
Ouais, c'est ça. Puis s'ils n'ont pas de raison de demander un échantillon, ils peuvent pas non plus. Fait que j'imagine que ça devait être facile de se faufiler, là.
Ouais, c'est quasiment comme un gaspillage de temps puis ressources d'envoyer des échantillons du monde qui sont coopératifs au...
Mais aussi quand quelqu'un...
au laboratoire.
Ouais, mais quand quelqu'un dit non... Mais ils ont pas le choix, mais aussi quand quelqu'un dit non, mettons que les policiers ils passent les entrevues puis ils disent « Est-ce que vous voulez nous donner un échantillon de nom? » Non. Ben là, j'imagine qu'il aurait pris son nom en note, qu'il aurait dit « Ah, c'est suspicieux, ça, on va fouiller plus loin, tu sais.
Mm-hmm. »
Puis aussi, ben le sang, là, ça matchait pas celui du père de l'ex de Leslie.
Papa Creep.
Papa Creep. Fait qu'il pouvait... Il était vraiment exclu, là.
Mm-hmm. What about Baby Creep?
On n'en parle pas de Baby Creep, mais c'est clair que c'est pas eux.
OK, OK. Ben, justement, tu avais dit qu'il était en...
Caroline du Sud.
Ouais, c'est ça.
Pour faire un résumé des preuves jusqu'à maintenant, le laboratoire a pu prouver que le sang qui appartenait pas aux filles provenait de la même personne qui a fumé les trois mégots de cigarettes trouvés.
Mm-hmm.
Ça, je l'avais pas dit.
Okay.
Puis l'ADN de cette personne se retrouvait aussi sur le paquet de zip ties sur le bord de la fenêtre.
Okay.
Les mégots de cigarettes retrouvés sur la scène du crime étaient bien spéciaux puisqu'il s'agissait de la marque Camel Turkish Gold. Une marque qui, à l'époque, était relativement nouvelle et n'était pas disponible sur le marché depuis très longtemps. Peu d'endroits les vendaient. Les seuls endroits qui les vendaient en vendaient tellement de petites quantités qu'ils étaient en mesure de dire aux policiers combien de personnes en avaient acheté par semaine, genre une ou deux.
Wow!
Les enquêteurs demandent donc à Lauren une liste de personnes fumeurs qu'elle connaissait. Ils disent « Lauren, peux-tu me faire une liste là, de personnes de ton entourage qui fument? » Qui sait? Peut-être qu'un d'entre eux fume des Camel Turkish Gold.
C'est une bonne cigarette.
Je vois ta face depuis tantôt. Ah
oh,
ouais.
Yeah, yeah, oh yeah. Dans le temps, quand je fumais, oh, c'était une bonne celle.
En 2004, la science est beaucoup plus avancée côté test d'ADN. Les enquêteurs demandent à Dr. Friedakis de leur donner toutes les informations possibles à avoir en analysant l'ADN. Ce spécialiste venait de développer une nouvelle technique qui permet d'obtenir des traits physiques avec un échantillon d'ADN. Comme 99,9% de l'ADN humain est semblable, Dr. Friedakis se concentre sur le petit 1/10 de 1% qui diffère.
Mm-hmm.
En comparant avec d'autres pays, il est possible de connaître l'ethnicité de la personne. Pour ce faire, le docteur procède par élimination. Comme il n'y avait aucun match avec l'Asie du Sud et le Moyen-Orient, ces deux ethnies, ben, ont donc été éliminées. Maintenant, l'Europe et le Nord-Ouest prédominaient, hein, comme la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Nord de la France, la Belgique, Luxembourg, Danemark, Allemagne, etc. Le docteur a aussi pu identifier, en regardant la génétique, que le tueur avait les yeux bleus ouverts et fort probablement les cheveux blonds. Ce test tient compte des 24 meilleurs marqueurs génétiques connus pour déterminer la couleur des yeux. Ce test comprend 1551 échantillons provenant d'ADN de 3 populations européennes.
Wow!
En moyenne, les prédictions à l'aide du nouveau test se sont avérées juste dans 69,5% des cas pour les cheveux blonds, 78,5% pour les cheveux bruns, 80% pour les cheveux roux et 87,5% pour les cheveux noirs.
Hmm.
Un marqueur génétique, là, c'est une séquence d'ADN dont on connaît sa location sur un chromosome, ce qui permet d'identifier un individu ou une espèce. C'est le docteur Friedakis. Il a développé une nouvelle technique, puis c'est lui aussi qui a fait les premières recherches d'ADN pour élaborer des sites comme, c'est pas celui-là, mais comme Ancestry.com puis 23andMe.
Oh yeah!
Okay. Toi, tu l'as fait, 23andMe, là, tu mets un petit peu de ta salive, tu l'envoies, puis ils sont capables de dire d'où est-ce que tu viens dans le monde, à combien de pourcentage t'es, je sais pas moi, européen, asiatique, blablabla. Là. Mais c'est le même type de test qu'ils utilisent pour faire quoi.
Je suis 100% asiatique.
Non, t'étais comme 90% British ou quelque chose.
Non, non, non. 98% British.
C'est ça. Maintenant, près d'un an plus tard, les policiers n'ont toujours pas trouvé le coupable.
Yeah.
Désespérés, ils font donc une conférence de presse afin de demander l'aide du public. Dans cette conférence, ils partagent des informations non divulguées auparavant, notamment l'apparence probable du tueur et la marque de cigarette qu'il fume.
Mm-hmm.
L'histoire de Leslie, Adrian et Lauren fut grandement médiatisée et la population de Napa était encore sous le choc.
Mm-hmm.
Et terrifiée, sachant qu'il y avait cette personne-là au large.
Mm-hmm.
Un grand nombre de personnes regardaient donc la conférence de presse, même le tueur.
Ah ouais.
Ayant des idées suicidaires et ayant peur de se faire arrêter, Eric Koppel se rend immédiatement au poste de police du comté Napa afin d'avouer son crime.
No way!
Facile comme ça.
Juste à cause d'une conférence de presse.
Il sentait qu'il allait bientôt se faire arrêter. Là. Il sentait qu'il s'en venait de plus en plus près. Puis lui aussi, il avait beaucoup d'idées suicidaires.
I mean, c'est
je
ça.
Je préfère aller...
Au moins donner la closure aux familles des victimes.
À ta peur.
Oh no! Come on!
Qui est Eric Koppel, me diras-tu?
Mm-hmm. Who the fuck is that guy?
Tu te rappelles de Lily, l'amie d'Adrian?
Yeah.
Ben, Eric, c'était son fiancé. Tu sais, Lily, là, qui avait callé off le mariage?
No way.
Ben, c'était avec lui qu'elle s'était séparée. Tu te rappelles qu'Adrian était comme super prête, son amie Lily, puis c'était comme, on va aller en Australie ensemble?
Yeah.
Bon.
C'est son vengeance?
Eric y avait même aidé les trois filles à déménager. Eric est même allé aux funérailles de Leslie et Adrian. Puis tu te rappelles que c'est ça, Lily l'avait laissé, je viens de te le dire. Mm-hmm. Après le meurtre, qui penses-tu qui allait consoler Lily d'avoir perdu ses bonnes amies?
No way!
Trois mois après le meurtre, Lily et Eric se sont mariés. Elle est revenue avec.
Pour vrai?
Ah, oh, mais elle sait pas, elle, là. Eric a demandé à la mère d'Adriane, une des victimes, là, de venir parler de sa fille afin de lui rendre hommage pendant leur cérémonie de mariage.
Hmm.
Lily n'en avait aucune idée. Mais maintenant, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il commis ce crime atroce? Eric dit aux policiers qu'il avait un blocage mental et qu'il ne savait pas pourquoi.
Bullshit.
Il leur dit que le soir d'Halloween, il a pris un couteau dans sa maison et qu'il a conduit jusqu'à la maison des trois filles. Dans Forensic File, j'ai pas lu ça ailleurs dans mes sources, mais dans l'épisode de Forensic File, on voit que Eric est allé à un party d'Halloween, le même party d'Halloween que Lily est allée.
OK.
Puis là, il serait allé voir Lily, puis il aurait dit « Pourquoi on revient pas ensemble? » C'était supposé être leur mariage demain, puis tout. On pourrait reporter notre mariage à une autre date. Puis Lily, elle voulait rien savoir. Fait que lui, il aurait quitté ce party-là en beau maudit. Fait que là, il est allé chez eux, il a pris un couteau, il a conduit jusqu'à la maison des filles, il est resté devant la maison quelques temps à fumer des cigarettes. Il est ensuite entré chez les filles par la fenêtre. En entrant, il a échappé ses zip ties. Quand il est arrivé au poste de police, au début, les policiers disaient, tu sais, ça arrive des fois des gens qui on a déjà vu ça dans des entrevues, là, des gens qui avouent des crimes qu'ils n'ont pas fait. Fait que là, les policiers le croient pas trop au départ. Ils trouvent ça bizarre parce qu'ils... Mais ce qu'ils ont fait en sorte, ils ont fait « OK, oui, c'est bien notre gars. » Il a dit « Ben, j'ai échappé mes zip ties sur le bord de la fenêtre. » Puis ça, c'est pas une information.
C'est pas un détail qui était donné par les enquêteurs.
Non, c'est ça. Il y a juste eux qui le savaient. Fait que là, ils se sont bien dit « Ouais, c'est lui. » Fait que là, il dit qu'après ça, après là, qu'ils sont entrés dans la maison, il peut rien dire aux policiers. Il se rappelle être retourné ensuite jusqu'à chez lui. Puis là, il a brûlé ses vêtements pleins de sang. Il dit ne pas se rappeler ce qu'il a fait avec le couteau. D'ailleurs, ils n'ont jamais retrouvé le couteau.
Bullshit!
Yeah. En creusant plus loin, les policiers peuvent émettre l'hypothèse qu'Eric croyait, dans sa tête de débile, que Lily l'aurait laissé à cause de ses amis. Surtout à cause d'Adriane. Mais pourquoi il aurait tué Leslie en premier? Est-ce qu'il pensait qu'il s'agissait de la chambre d'Adriane? On le saura jamais.
No way!
Pendant le procès, les supporters d'Eric étaient d'un côté et les proches des victimes de l'autre.
J'espère qu'il n'y avait pas tant de supporters d'Eric.
Mais des fois, là, les gens supportent pas l'acte, mais la personne.
Ouais, je sais. Oh, il n'est pas coupable. Oh, il n'est pas coupable. Mais tu sais, comme si...
Mais des fois, ils savent que la personne est coupable, mais mettons que c'est je sais pas, ses parents sont là, pareil.
C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est que si c'est sa mère, son père, frère, sœur, OK, comme 5-6 personnes. Mais tu sais, s'il y a des preuves de ADN, c'est comme, hey,
ouais.
Peut-être te distancer de cette personne.
Lily supportait son fiancé. Elle a moins... Tu sais, Adriane, c'est une de ses meilleures amies, là.
Mm-hmm.
Elle a même témoigné en cour qu'il n'y avait rien qu'Éric puisse faire qui ferait en sorte qu'elle ne l'aimerait plus. Tu sais, t'es pas obligé d'en ajouter, rendu là, là.
Mm-mm.
Éric a été reconnu coupable de double meurtre et passera le reste de sa vie en prison. Il a évité la peine de mort de près. Le juge, à la demande de la famille des victimes, a aussi insisté sur le fait qu'Éric n'a pas le droit de parler de cette histoire à qui que ce soit. Il n'a pas le droit de parler du crime. Fait qu'on saura jamais vraiment ce qui s'est passé.
OK, so, il peut pas profiter de ça, comme non. Si Netflix veut faire un documentaire là-dessus, whatever.
Il n'a pas le droit.
Ça, c'est vraiment intéressant, parce que, tu sais, nous, on écoute Dahmer sur Netflix présentement, puis c'est une bonne émission, c'est intéressant. Mais est-ce que surtout dans les cas des meurtres qu'on a vus dans des écoles récemment, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est moral de parler de cette personne?
Maintenant, on raconte des histoires de crimes puis de meurtres pour les victimes.
Mm-hmm.
Dans le respect pour les victimes, on veut pas qu'elles soient mortes pour rien, on veut pouvoir se rappeler d'elles, puis on veut pouvoir parler du fait à quel point elles ont souffert. Je trouve que leur histoire mérite d'être racontée, puis leur vie mérite des éléments de leur vie qui sont divulgués, qui sont partagés là, par mm-hmm. la famille, puis tout ça, mm-hmm. mérite d'être partagé, tu sais. Maintenant, tu remarqueras, on n'entend plus vraiment parler de tueurs en série. Pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'on ne veut plus leur donner la notoriété, puis on ne veut plus leur donner l'attention.
Mais je pense qu'à Star, c'est beaucoup plus difficile de faire plusieurs crimes comme ça, avec toute la technologie qu'on a maintenant. On a déjà parlé d'un crime dans une autre émission de notre épisode de notre podcast où il avait filmé le suspect de début au fin.
Ah, c'est notre prochain épisode, ça.
Mm-hmm.
Ouais. Non, maintenant, tu sais, il y a des CCTV, des caméras de surveillance partout. La science est vraiment avancée. Tout le monde a des téléphones cellulaires. Oui, c'est plus difficile, t'as raison, mais il y en a quand même beaucoup des meurtres. Il y a quand même
mm-hmm.
des tueurs. C'est juste que notre manière de penser a changé. Puis t'as plus justement des tueurs comme c'est Jack the Ripper. Ripper. Tu sais,
ouais,
on leur donne
ça.
Plus des noms cool ou de quoi. En même temps, on a changé notre mentalité, puis on veut plus leur donner. Là,
ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un mot en français. Il faut pas glorifier.
Ouais, c'est ça. On veut pas les glorifier. Là.
Ouais, c'est ça.
Pour ce qui est de la récompense de 100 000 $ les compagnies qui l'offraient ont demandé à la famille des victimes de choisir des organismes qui pourront en bénéficier. Ah! Puis Lily et Eric, mm-hmm. ben, sont plus ensemble. Se sont séparés pas longtemps après le procès.
Good.
C'est ça pour mon épisode de l'Halloween.
Wow!
Uh-huh.
Wow!
Je vais terminer en donnant mes sources.
CBC. Forensic Files.
Oui! CBC News, Forensic Files, saison 12, épisode 15, sfgate.com, medium.com, swordandscale.com, puis forensicfilesnow.com. Il y a un article aussi que j'ai lu.
Tabarnouche.
Sur ce, merci d'avoir écouté notre épisode, puis joyeuse Halloween!
Happy Halloween!
Bye-bye!
Bye!